Radio Campus.
Ça vous fera pas de mal un peu de chasteté.
Embrace your new found love.
The struggle continues every day. The struggle continues, come what may. Some sleeping on the cold concrete, no food to eat. Some roaming the means. country without no home. I know a little sister can't find no money to pay her rent. I know another brethren can't find no job and him no lazy. So I cry. The struggle continues every day. The struggle continues, the struggle continues, come what may. Some are big afraid and some little afraid, oh yeah. Some think of that them smart, but them have a done scare.
The Struggle Continues, un titre de Grant Fabao et Karl Mix sur Radio Campus Orléans. Bienvenue à vous, vous êtes dans Écoute ta fac.
Écoute ta fac. Écoute ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. On va la refaire celle-là.
Il est midi 6, bonjour à toutes et à tous, je suis Erwan et on est ensemble jusqu'à 13h pour une nouvelle édition d'Écoute ta fac hebdomadaire de l'été. Aujourd'hui on est le mardi 2 juillet, alors il n'y a pas de journée internationale aujourd'hui. Par contre, samedi le 6 juillet, ça sera la journée internationale des coopératives. Voilà, allez checker ça, c'est sur le site des Nations Unies, puisque les Nations Unies considèrent que justement la coopérative permet de faire un monde meilleur. Aujourd'hui, on parlera également de comment faire l'enseignement, de comment améliorer l'enseignement avec notamment le Learning Lab. On aura trois invités qui vont nous rejoindre dans quelques minutes pour nous parler justement du dispositif d'accompagnement autour des outils numériques. C'est le dispositif PAN. Vous en avez souvent, sûrement déjà entendu parler. Mais aujourd'hui, on remet une petite couche parce que pourquoi pas, à l'approche de l'été, c'est toujours agréable. Et puis, on peut préparer sa rentrée en étant sur la plage ou en lisant des livres ou en profitant de l'été. Bref, en tout cas, l'été, c'est bien, c'est super bien. C'est pour ça que le titre qu'on va écouter maintenant s'appelle It's So Good. C'est un titre de Jamie XX. Sur Radio Campus Orléans, restez avec nous. It's So Good, c'est un titre de Jamie XX sur Radio Campus Orléans. Vous êtes toujours dans Écoute ta fac. J'espère que vous passez un bon moment à nos côtés. Tout de suite, l'invité.
Écoute.
C'est l'invité d'Écoute ta fac.
Écoute ta fac.
Que dis-je, les invités dans Écoute ta fac. Alors on a... super, mes notes viennent de disparaître à l'instant. Non, elles sont là. Arnaud Hazard, ingénieur pour l'enseignement au Learning Lab, qui est un service de l'Université d'Orléans sur les questions d'accompagnement. Bonjour Arnaud. Tu es avec Bastien Rignon, il est étudiant en master informatique et tuteur numérique, et également Marie Hainaut, ingénieure pédagogique au département de formation médicale. Bonjour à vous toutes et à tous. Alors je ne vous entends absolument pas. Tiens, c'est marrant, pourtant vos micros sont ouverts, tout a l'air de fonctionner, pourtant je ne vous entends absolument pas. Je veux bien que vous réessayiez un coup. Absolument pas. Est-ce que vous entendez, vous, dans les casques? Faites-moi sinon, vous entendez absolument pas. Eh bien, chers auditeurs, chères auditrices, je vous propose d'écouter de la musique. En attendant, on revient vers vous dans un instant. Justement, Danger Walked In de Organi.
D'origine russe. Seulement d'éducation française. Et alors, la Russie et l'Angleterre, ça fait un cocktail. Une espèce de Bloody Mary. Très fort, en fait.
La première fois que j'ai vu, j'ai trouvé... Boy, stay away. It's danger. I won't stay. Yeah, there's nothing you can say. You're danger, danger, danger. You're danger, danger, danger.
Danger Walked In de Organi sur Radio Campus Orléans dans Écoute ta fac. On est de nouveau avec nos invités, je le rappelle, Arnaud Moisard, ingénieur pour l'enseignement au Learning Lab sur les questions d'accompagnement à l'Université d'Orléans, avec Marie Hainaut, ingénieur pédagogique au département formation médicale, et Bastien Rignon, étudiant en master d'informatique et tuteur numérique. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Bonjour.
Et
bonjour.
Ça fonctionne, c'est merveilleux. Alors, on parle ici d'un projet d'accompagnement et d'orientation sur le numérique. C'est bien ça, l'acronyme du PAN de ce...
C'est plus qu'un projet, Erwan. Il s'agit d'un parcours.
Parcours, c'est ça, c'est le parcours. Oui, c'est l'acronyme.
Le PAON.
Le PAN, ce bel animal qui a 5 ans cette année.
Oui, et puis l'emblème un petit peu du château, de la gouvernance de l'université. On l'entend quelquefois nous appeler avec son plus beau cri.
Léon.
Tout à fait.
Avec en effet le parc floral qui est juste à côté, et on l'entend depuis le parc floral. Alors 5 ans, ça a débuté pendant le Covid, c'est
oui,
ça, ce parcours d'accompagnement.
Le PAON, c'est un acronyme, hein, c'est un oiseau, mais c'est aussi un acronyme. C'est le parcours d'accueil et d'orientation numérique qui a été mis en place il y a 5 ans, en effet, en plein Covid, pour accompagner les étudiants dans un contexte de rentrée un petit peu compliqué. Je rappelle simplement que les universités n'avaient pas eu l'autorisation d'accueillir les étudiants d'une façon normale, un petit peu en décalage par rapport aux lycées et les collèges. Et donc, pour cette première année, l'année de lancement, eh bien, il nous a fallu configurer et informer aussi tous les étudiants qu'on avait acquis, eh bien, des nouveaux logiciels qui permettaient la continuité pédagogique avec des cours en tout distanciel.
Donc ça, c'était une nouveauté, ça n'avait jamais été expérimenté ?
Tout à fait, c'était une nouveauté, donc beaucoup de connexions, beaucoup de comptes à créer, beaucoup d'étudiants à prévenir dans un temps contraint. C'est pourquoi la première année, l'année du lancement, le PAN a été disponible sur la plateforme de cours en ligne de l'université qui s'appelle Moodle. Il y est toujours d'ailleurs, mais au fil des années, il a fait des petits, des panneaux, des petits PANs.
Des petits pans, d'accord. Ah d'accord, ça s'appelle comme ça, le petit du pan des panneaux.
Je crois, mais j'en mettrai pas ma main aussi, à couper. Okay. Et finalement, on a ajouté des étages ou des plumes à notre joli pan pour accompagner non plus uniquement dans le domaine des connexions et des tutoriels numériques, mais dans d'autres domaines qui peuvent éventuellement lutter contre l'abandon à l'université. Voilà. Avant de donner la parole à mon tuteur, je voulais juste prévenir les familles qui nous écoutent aujourd'hui à la radio et qui s'apprêtent à envoyer leurs enfants à l'université à la rentrée de septembre, qu'on veille à l'équipement informatique de chacun de nos étudiants par d'autres dispositifs, notamment le dispositif Presto, qui nous permet de prêter gratuitement un ordinateur aux étudiants qui n'en disposent pas, avec un accompagnement aussi qui est lié. De la même façon, nous avons acquis des licences de logiciels, par exemple traitement de texte, tableur, etc., qui permettent à chaque étudiant d'avoir le matériel nécessaire, éventuellement, pour réussir avec succès leurs études.
Alors, du prêt d'ordinateur, de l'accompagnement. Au début, tu me disais que c'était un service qui était très, très technique. Aujourd'hui, ça s'est davantage ouvert. J'aimerais qu'on parle un petit peu avec toi, Marie, donc ingénieure pédagogique au département de formation médicale. Donc, ça s'étend, ça s'agrandit. On parle également de formation médicale. Alors, comment on fait le lien entre justement de l'accompagnement au numérique et justement le côté médical ?
Alors en fait, Scardou, il ne vous a pas dit, c'est que le PAN n'est plus que numérique. Le PAN, il est aussi... en réel, avec les étudiants. Et dans le cadre du PAN, on met en place des ateliers en fait, de configuration des outils numériques de l'université pour notamment tous les primo-entrants et néo-entrants de l'université. Et c'est là où on a expérimenté l'année dernière des ateliers donc pour les étudiants de santé, parce qu'ils ont une double inscription, Université d'Orléans, Université de Tours, qui peut être un petit peu compliqué à gérer. Et en fait, on a expérimenté la mise en place d'ateliers réguliers pour tous les primo-entrants et néo-entrants des études de santé, où on les aide à configurer non seulement EduRAM, bien sûr, le Wi-Fi de l'université, les outils ENT, l'emploi du temps, messagerie, etc. Mais aussi les outils de l'université dont Arnaud a parlé, les traitements de texte, les tableurs, etc. Et la mise en place aussi de comment trouver leurs cours et trouver les informations nécessaires à toute leur démarche à l'université.
Alors, en tant qu'étudiant, parfois, on peut se retrouver un petit peu perdu face à tout ça. Et j'imagine que c'est à ce moment-là que tu interviens, Bastien. Donc, toi, tu es étudiant en master d'informatique et tu t'es également engagé en tant que tuteur numérique. Alors déjà, comment tu t'es engagé aux côtés de l'université sur cette question-là ?
Alors, en fait, c'est très simple. Tout ce qui est tuteur numérique, c'est un job à part entière. C'est un job étudiant qui est proposé par la fac. Il y en a plusieurs. Et donc, en fait, j'ai eu la chance... d'avoir un de mes professeurs qui était très au fait de ces missions-là. Et en fait, vu que nous, on fait des études d'informatique, et ben naturellement, on nous a proposé de postuler sur ces postes, ce qui fait quand même une petite rentrée d'argent. Un job étudiant, c'est pas négligeable, hein, on le sait, la précarité étudiante. Et donc, et ben, ça fit bien avec nos études. Donc voilà.
Et alors, les étudiants et étudiantes, lorsqu'ils et elles souhaitent bénéficier d'un accompagnement, comment est-ce qu'ils et elles font ?
Alors, en fait,
mode
c'est,
d'emploi.
C'est très, très simple. Vous allez pouvoir nous retrouver un peu partout sur le campus, principalement dans les halls de composantes. Donc, quand je dis partout sur le campus, je pense à LEA, à Sciences, à DEG, mais aussi à l'IUT. À l'IUT, on a des intervenants, des tuteurs numériques qui sont sur les différents IUT, les différents sites de la fac, et donc qui pourront nous retrouver un peu partout. Après, on nous retrouvera aussi en BU, Et un peu plus tard dans l'année, on aura un QG, on va dire, qui sera la salle prestige au niveau des amphisciences. Donc vraiment, on peut nous retrouver quasiment partout sur la fac.
Alors c'est quoi ? C'est dans les halls de fac ou il y a un bureau en fait dans les facs, dans les UFR ?
Non.
Les composantes, je ne sais plus comment on dit.
Ouais, dans les composantes. Non, ce sera dans les halls, tout à fait, pour que en fait on puisse, on va dire, alpaguer un maximum de gens, parce que malheureusement, on s'est rendu compte, notamment cette année, qu'en fait, Edurome, qui est le Wi-Fi de la fac, il y a plus de 2 étudiants sur 3 qui n'y sont pas connectés. Ça, c'est pas acceptable.
Pourquoi ?
Parce que...
La 4G, c'est pas suffisant ?
Les étudiants de sciences sauront très bien que, notamment dans les amphis, c'est des vrais bunkers. Ouais. Et donc, la 4G...
Donc, voilà. Il y a besoin, en effet, de savoir. Alors, en termes d'amplitude, c'est du lundi au vendredi ou c'est seulement un jour de la semaine ? Sur quels horaires ? Comment est-ce qu'on vous identifie également dans les halls des composantes et de la BU ?
Alors, on va essayer d'avoir des petits kakimonos pour être un peu identifié et de se placer toujours aux mêmes endroits. Donc ça va être assez important. Dans le hall science, on va essayer de voir avec Tributaire pour se placer un peu à côté d'eux parce qu'ils ont quand même beaucoup d'espace.
Tributaire donc, qui est donc des associations étudiantes de sciences.
Tout à fait. Et après, dans les autres halls, on verra au fur et à mesure de l'année comment on pourra se placer. Sur le fait de est-ce que c'est du lundi au vendredi, c'est tous les jours de la semaine. Après, on ne peut pas promettre des heures fixes parce que, comme je l'ai dit, on est tous des étudiants, tous les tuteurs numériques. Donc malheureusement, on va faire en fonction de nos emplois du temps, mais on va essayer d'être là au moins tous les midis, si possible, et assez souvent le soir pour pouvoir accompagner au mieux les étudiants.
Donc le midi, le soir, si jamais vous n'êtes pas là, on fait comment pour vous contacter ?
Eh bien, on revient un autre jour.
On revient un autre jour, ouais. C'est beaucoup plus simple. Et ouais. À ce moment-là, on vient vous voir. Je ne sais pas comment me connecter au Wi-Fi. Je ne sais pas comment me connecter à l'ENT. On pose la question, on vient voir, on n'est pas timide. Et
non.
Puis tu réponds.
Tout à fait. Ah. Alors, je vais juste préciser, il y a quand même une petite boîte mail. Pan@unif.org.
Alors, vas-y Arnaud.
La boîte mail, c'est aide.pan@univ-orléans.fr. Effectivement, comme disait Bastien, de toute façon, ils seront là. Il y aura des permanences plutôt le midi dans les composantes, dans les halls des composantes, à côté des cafétérias. C'est c'est le plus simple. On va essayer de les faire tourner pour qu'ils soient là tous les midis et le soir plutôt en BU. Où là, vu que les BU restent ouvertes sur une grande amplitude le soir, ça permet aux étudiants d'aller voir les tuteurs plus facilement.
Alors également, si on est étudiant et qu'on n'a pas d'ordinateur, qu'on n'a pas en fait, d'équipement informatique, comment on fait Arnaud ?
Eh bien, on propose aux étudiants simplement de déclarer leur situation auprès de leur scolarité ou de leurs enseignants, ou s'ils sont sur le campus d'Orléans, de se rendre au guichet de l'aide. Très vite... Nous préviendrons les bibliothèques universitaires qui enverront un mail à l'étudiant demandeur sans rien lui demander d'autre, d'ailleurs en gage. On lui prête un ordinateur comme si on lui prêtait un livre et il le garde tout au long de l'année universitaire, en tout cas pour couvrir tous ses besoins.
Tout simplement.
Donc cette année, on en a prêté l'équivalent un petit peu plus de 480 durant les mois de septembre et octobre. Et je précise qu'il faut que les étudiants n'hésitent pas à signaler leur situation. Évidemment, aujourd'hui, le numérique est une condition sine qua non. En tout cas, la compétence numérique est devenue une condition sine qua non dans beaucoup, beaucoup de cursus étudiants à l'université pour réussir ses études. Donc les tuteurs et les tutrices veilleront aussi à la prise en main de ces ordinateurs.
Bastien, tu voulais ajouter quelque chose ?
Ouais, je veux ajouter 2 derniers petits points. Déjà, pour toutes les personnes qui n'ont pas d'ordinateur et donc vont faire une demande pour avoir un prêt d'ordinateur, il faut savoir que les tuteurs numériques vont aussi être là pour les accompagner, c'est-à-dire que pour les personnes qui ne seraient pas habiles avec les outils informatiques, on vous proposera à toute personne demandant un prêt d'ordinateur une petite séance avec nous pour la prise en main. Et aussi, j'aimerais revenir sur un point qui n'a pas été dit. On parle beaucoup des outils informatiques, mais en fait, le PAN, c'est un peu plus large que ça. Je pense aux primo-accédants de la fac qui peuvent avoir du mal avec la prise de notes, notamment. Il y aura sûrement durant l'année des petits ateliers de prise de notes un peu plus large que ça, qui seront notamment sur le parcours du PAN où il y a des petits cours.
Donc, comment bien prendre en note ces cours pour ne pas se retrouver à la ramasse ? Est-ce que là, comme ça, tu peux nous donner 2-3 conseils pour les personnes qui nous écoutent ?
Alors,
c'est quoi, toi, les meilleurs conseils que tu as pu recevoir et mettre en application lors de ton cursus?
Déjà, je pense que le conseil le plus important, c'est éviter de se mettre au fond des amphithéâtres. Mettez-vous le plus devant possible parce que ça va vous forcer à écouter. Hein. Et plus vous écoutez, ça fait du travail en moins à la maison. Donc voilà. Et puis, prendre des notes, que ce soit manuscrites ou sur ordinateur, c'est très important. Faire pas des phrases complètes, des petits mots, des cartes mentales, mais retravailler ça chez soi, je pense que c'est vraiment les points importants. Et voilà.
Donc prendre des termes, des mots, des notes rapides, des schémas. Donc en fait, on n'est pas dans du 100% écrit, en fait, on est dans du schéma. Alors peut-être pour les nouveaux étudiants, les nouvelles étudiantes qui vont arriver, qui sortent du lycée, où j'imagine, où moi de mémoire, hein, ça commence à faire quelques années maintenant, mais tout était extrêmement millimétré, c'était vraiment des phrases, il y avait une forme à respecter. Là, les notes, en fait, personne ne va les vérifier, personne ne va dire c'est comme ça qu'il faut prendre en note les choses, c'est vraiment une liberté totale.
Alors, liberté totale, ça dépend des professeurs, on va pas se mentir. Il y a des professeurs un peu plus à cheval sur la façon dont les notes doivent être prises. Mais non, c'est vraiment à l'étudiant de trouver sa façon de prendre des notes et la façon dont il est le plus à l'aise. Hein.
Arnaud, quel logiciel est-ce qu'on utilise sur ces ordinateurs, alors que ce soit les ordinateurs qui sont prêtés par l'Université d'Orléans ou même les ordinateurs que les étudiants et étudiantes peuvent ramener de chez eux? Qu'est-ce qui est conseillé? Vers quoi on va se tourner?
La question est complexe parce que selon les études que suivent les étudiants, ils sont amenés à manipuler des logiciels parfois même assez gourmands en termes de puissance.
Ça dépend des formations,
de
j'imagine qu'en informatique on utilise des logiciels.
Même des masters géographie, quelquefois, même en lettres, langues et sciences humaines, les besoins informatiques des étudiants peuvent être très très élevés. Donc je ne peux pas donner de propos généraux sur l'usage des logiciels à conseiller par les profs. Ce que je peux simplement répondre, c'est que nous fournissons aux étudiants des ordinateurs dont le nom est Presto, enfin en tout cas c'est le nom du dispositif, avec les droits administrateurs, ce qui leur permet finalement d'installer les logiciels dont ils ont besoin pour leurs études. Je voulais aussi rebondir sur les propos tenus par Bastien, qui sont tout à fait excellents et précis. Pourquoi donc il a parlé en effet d'activités qui n'étaient pas liées au numérique stricto sensu, c'est-à-dire des ateliers de prise de notes ou des ateliers de fiches de révision. Eh bien ça, je pense qu'aussi, c'est un autre effet collatéral de la crise épidémique Covid qu'on a traversée, c'est-à-dire que j'ai noté, en observant les comportements d'étudiants, des changements assez radicaux, et peut-être pour certains, finalement, des pertes de compétences, non pas techniques et numériques, mais tout ce qui a trait, finalement, à ce qu'on pourrait appeler le métier de l'étudiant. Parce que être étudiant, c'est pas simplement suivre des cours, ça implique tout un programme, un échéancier, il faut s'organiser. Et c'est tous ces conseils pratiques que les tuteurs vont mettre en œuvre pour accompagner les premières années principalement, mais pas uniquement les premières années qui arriveront. Et on va le faire sur libre inscription, bien entendu, rien n'est obligatoire. On propose aux étudiants des activités, c'est à eux de les saisir s'ils le souhaitent.
Eh bien, merci beaucoup. Il est 12h30 sur Radio Campus. Je pense qu'on va pouvoir se quitter. Peut-être un dernier mot avant de rendre l'antenne et d'écouter un peu de musique. Non,
peut-être,
pas de dernier mot.
Peut-être
si, Marie.
Le dernier mot, Bastien a donné des bons conseils. Le premier conseil que j'aurais donné, c'est aller en cours. Tout simplement, en fait. C'est important d'aller en cours, de voir l'enseignant, etc. Et de pouvoir interagir avec lui, c'est toujours mieux que d'avoir des notes d'un collègue ou de récupérer ses cours sur Célène. Voilà.
Allez en cours et écoutez.
Et ne restez pas isolés. Je pense que réviser à plusieurs, s'entraider, s'entraîner ensemble, est pour moi une marche à franchir vers le succès et la réussite aux études.
Merci beaucoup à vous trois d'avoir été au micro d'Écoute ta fac sur Radio Campus Orléans. Marie Hainaut, ingénieure pédagogique, département formation médicale à l'Université d'Orléans. Arnaud Moisard, ingénieur pour l'enseignement au Learning Lab sur les questions d'accompagnement également de l'université. Et enfin, Bastien Rignon, étudiant en master informatique et tuteur numérique. On continue avec DataWerk. DataWerk, un titre de Lisa Aikin et monologue sur Radio Campus Orléans, restez avec nous. On est ensemble jusqu'à 13h dans Écoute ta fac.
Ça arrive près de chez vous.
Ça arrive près de chez vous.
Ça arrive près de chez vous. Un programme proposé par les Radio Campus.
Ça arrive près de chez vous. Comment vont celles et ceux qui donnent vie à votre territoire ?
À l'approche des élections, Radio Dijon Campus se mobilise aux côtés du réseau Campus France pour donner la parole à ces structures et personnes qui agissent sur le terrain. C'est le cas des SMAC, les salles de musique actuelles soumises aux décisions politiques. Pour en parler, je suis allée rencontrer le directeur de l'une d'entre elles.
Je m'appelle Yann Rivouel, j'ai 54 ans, et je suis directeur de La Vapeur, qui est un lieu consacré aux musiques actuelles à Dijon, qui est labellisé scène de musique actuelle par le ministère de la Culture. La Vapeur, c'est un lieu où il se passe pas mal de choses assez différentes, où tous les jours il se passe plusieurs activités, parce que à la fois, bien entendu, c'est une salle de concert, donc on accueille des artistes et du public qui vient au concert, et on accueille à la fois des artistes nationaux, internationaux, assez établis, qui attirent un public assez large, mais aussi des artistes locaux, des artistes plus jeunes ou émergents, ou dans des styles moins grand public, dans des jauges plus petites. Mais on a un travail aussi sur l'accompagnement des artistes, sur la pratique musicale des amateurs. Il y a plus de 600 musiciens et musiciennes du département de Côte d'Or qui fréquentent les studios de répétition et les ateliers qui sont mis à leur disposition tout au long de l'année. Puis on a un grand volet aussi, action culturelle, médiation culturelle, où on accueille ici des personnes de tous âges pour découvrir ce qu'est ce milieu musical et plus largement la culture, pour donner peut-être envie aussi d'y participer ou en tout cas de vivre ces expériences-là. Et on se déplace évidemment dans un certain nombre d'endroits. On propose aussi des rendez-vous tout public sur l'histoire des musiques, sur le débat. On va dans les écoles, en prison, dans des centres sociaux, avec l'éducation populaire. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'offrir une possibilité d'expérience culturelle et peut-être d'aller plus loin à l'ensemble d'une population sur un territoire donné. Pour nous, c'est la métropole de Dijon et le département de Côte d'Or. Alors, La Vapeur est sur un modèle économique semi-public, semi-marchand, on va dire. En tous les cas, c'est un établissement public de la ville de Dijon. Donc on est un équipement public et dans nos recettes, on a à peu près 50% de subventions qui nous sont attribuées en premier lieu par la ville de Dijon, par l'État, par la région Bourgogne-Franche-Comté et puis ensuite également par le Centre National de la Musique et la SACEM. Et pour 50%, ce sont les recettes propres de La Vapeur qui viennent financer son fonctionnement et ses activités. Si on était juste sur un modèle de société privée à but lucratif, on n'aurait pas ces dotations publiques. Et ça ne nous permettrait pas de programmer dans un cadre professionnel, avec un salaire décent pour tout le monde, des conditions aussi qui sont celles d'un établissement recevant du public. Ça ne nous permettrait pas de programmer des artistes en devenir, des artistes pour lesquels, évidemment, la billetterie ne va pas pouvoir compenser l'ensemble des coûts qui sont mis en œuvre sur une soirée de concert. Alors, ce modèle économique, il est intéressant, mais il est aussi un petit peu, il s'essouffle, parce qu'on sait que les finances publiques sont dans un état assez un peu délabré, on va dire, ou en tous les cas qu'il n'y a pas tellement de dépenses publiques en augmentation, et on sait que aussi bien l'éducation et la santé, mais aussi la culture en font un peu les frais, c'est-à-dire qu'on n'a pas la capacité de développer nos activités, notamment celle de proximité et de médiation culturelle comme on aimerait le faire, ou le soutien aussi aux jeunes artistes, à la diversité. Malgré tout, on reste un modèle quand même unique qui est assez enviable au niveau européen et même international. Mais c'est vrai que ça devient assez complexe de réussir à trouver des équilibres budgétaires, aussi à rémunérer correctement les salariés du monde culturel, parce que ce n'est pas non plus un sacerdoce, c'est-à-dire que les gens méritent d'être payés et d'avoir des conditions de travail correctes. Alors on s'efforce de le faire, mais avec les contextes d'inflation ou de baisse ou au mieux de maintien des subventions publiques, c'est vrai que ça devient de plus en plus complexe. Mais c'est après, les financements qui nous sont attribués, les financements publics, vont avoir une traduction immédiate dans notre capacité à faire. À la vapeur, par exemple, eh bien, on a un collègue qui est parti pour un autre projet professionnel à la fin de l'année 2023. J'ai décidé de supprimer ce poste et de ne pas le remplacer parce que économiquement, notre budget ne nous permettait plus. Donc, ça veut dire un salarié en moins. Donc, ça veut dire que si on est attentif à la charge de travail et à la qualité de vie au travail des personnels, ça voudrait dire aussi réduire de l'activité quelque part. Ça s'est traduit aussi en 2023, avant qu'on ait de nouvelles augmentations de subventions, par ne plus programmer de concerts sur lesquels on fait des prises de risques artistiques et financières, parce que bien entendu, une partie des subventions que l'on reçoit va justement à encourager la diversité, à encourager les jeunes artistes, à leur permettre d'être sur scène. Tous les concerts, évidemment, ne permettent pas d'arriver à l'équilibre financier ou de dégager. Nous ne sommes pas dans le secteur marchand, notre objectif n'est pas la rentabilité, mais bien entendu l'intérêt général. Et puis, ça se traduit sur l'ensemble des actions qu'on est en capacité de mettre en œuvre sur l'accompagnement des artistes, sur la médiation culturelle notamment. Oui, ce contexte qui était très, très alarmant en 2023 nous a poussé collectivement, parce que je crois que c'est la force aussi de notre secteur culturel au sens large, mais enfin des arts et de la culture, mais notamment aussi dans la musique actuelle, il y a une vraie tradition de coopération, d'organisation, au niveau régional, au niveau national, au niveau européen. Ça nous a amené à vraiment tirer la sonnette d'alarme et à faire un gros travail auprès des parlementaires dans un premier temps, puis du gouvernement pour obtenir des moyens supplémentaires, parce qu'il y avait commencé à avoir des licenciements dans un centre de structure, parce qu'il y avait des limitations sur l'activité, sur la programmation, des fermetures de lieux du fait des coûts d'énergie. Enfin voilà, des choses qui devenaient très concrètes en termes de signaux d'alarme. On a fini par être entendu, mais on a obtenu finalement un peu un pansement, c'est-à-dire que ça a permis de sortir la tête de l'eau, de retarder en tous les cas ces échéances. Mais c'est vrai que ça n'assure pas le modèle qui est le nôtre pour l'avenir. Donc on s'apprêtait à entamer de nouvelles discussions avec le ministère, le gouvernement et les collectivités territoriales. Mais la dissolution prononcée par le président de la République suite aux élections européennes a un peu mis un coup d'arrêt à tout cela.
Alors, à quelques jours des élections législatives et dans ce contexte tendu, comment se projette Yann Rivoile, directeur de la Vapeur ? Que va-t-il advenir de la liberté de programmation des SMAC ? Et si les SMAC disparaissaient ?
Alors, c'est assez difficile de se projeter, je trouve, et de plus en plus. Alors, bien entendu, là, dans le moment dans lequel on vit, entre des élections européennes et des élections législatives, dont le résultat est très incertain, difficile de savoir à quoi ressemblera l'Assemblée nationale et le gouvernement qui sera mis en place à l'issue de ces législatives. Donc, c'est très difficile de se projeter, mais de manière générale, ce qu'on observe depuis au moins 5 ans, c'est qu'en fait, on est en permanence soumis à des crises qui n'arrêtent pas d'arriver les unes après les autres et qui sont très difficiles à anticiper. Je pense que le Covid, en fait, a marqué un espèce de démarrage, d'enchaînement de crises. Il y a eu le Covid, la guerre en Ukraine, enfin, le retour de la guerre sur le sol européen quand même, et une guerre d'agression par la Russie qui change complètement la donne des équilibres au niveau mondial, mais qui a aussi entraîné la crise économique et inflationniste derrière, avec un système qui fait que ça profite toujours à ceux qui ont déjà plus et qui continuent à s'enrichir au détriment de ceux qui vivent déjà difficilement. Une crise politique derrière, sachant qu'on a déjà été exposé aussi à des crises sécuritaires sur le sol français. Donc, en fait, il faut être en on peut pas se dire on est dans un modèle qui est celui-là et qui va perdurer. Et puis, bien entendu, au-dessus de tout ça, il y a l'enjeu et la crise climatique qui est déjà là, mais dont les effets, on ne les mesure sans doute pas suffisamment encore, vont bouleverser beaucoup plus que toutes ces choses-là, notre avenir à moyen terme et surtout l'avenir des générations futures. Donc, c'est vrai que c'est assez anxiogène, mais il faut être en capacité, je pense, de s'adapter, puis surtout de savoir sur quel socle on s'appuie pour continuer à faire ce que l'on fait, à le défendre bec et ongle, parce que je pense qu'on en a plus besoin que jamais. C'est vrai que le climat politique actuel peut nous faire réellement peur sur l'avenir et sur la relative liberté dont on jouit aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, par exemple, à La Vapeur, en tant que directeur, mais aussi programmateur, on n'a vraiment pas d'entrave de la part des politiques sur notre liberté de programmation. Malgré tout, on voit depuis quelque temps, à l'échelon national, des censures qui interviennent, des tentatives de sabotage, des opérations de déstabilisation d'organisateurs de spectacles ou d'artistes par des groupuscules d'extrême droite, clairement. Donc, il y a forcément, ça nous fait dire que si l'extrême droite arrive au pouvoir, ça risque de se renforcer. Et on a fort à craindre sur cette liberté, en tous les cas sur la capacité à pouvoir présenter un large spectre de formes créatives, de formes artistiques, et surtout d'une liberté d'écriture, de jeu, d'expression, qui sera certainement remise en question. C'est-à-dire que si il n'y a plus d'opérateurs comme les nôtres, par exemple uniquement dans le domaine, dans le secteur musical, alors labellisé SMAC ou pas, hein, parce qu'il y a aussi des lieux qui ne sont pas labellisés, mais qui sont gérés par des associations qui font le même type de travail et pour lesquels c'est peut-être encore plus périlleux, eh bien ça voudrait dire que, un peu à la manière des Zéniths, c'est-à-dire que là, les Zéniths n'ont pas vocation à faire connaître de nouveaux artistes. C'est des sociétés commerciales qui sont là pour exploiter un lieu, vendre des services. Et les producteurs qui se servent de ces outils sont là. Eux, ils ont un but lucratif et ils sont là, évidemment. Et il n'y a pas de mal à ça. Simplement, on voit bien que ça rétrécit un peu le champ des possibles. Et le risque, quand des lieux comme les nôtres ou des cafés-concerts ou des lieux associatifs, s'ils venaient à disparaître, sachant qu'il y en a pas mal déjà qui ont fermé, eh bien, ça veut dire que c'est quand même tout un pan de la diversité, du renouvellement artistique, de l'accès à la scène pour des professionnels ou des amateurs qui se complexifient. La Vapeur a besoin d'une politique publique en faveur de la culture, de la musique, qui soit dotée de moyens et qui affiche des objectifs, des ambitions fortes pour les artistes, mais aussi pour la population. Enfin, clairement, quand on regarde les résultats du Rassemblement national à l'issue des européennes, on voit que là où ils ont les taux les plus forts de vote, c'est là aussi où, pour des raisons historiques ou de densité de population, etc., le moins d'implantation d'acteurs culturels, par exemple. Je pense que c'est la combinaison des lieux d'éducation, de l'éducation nationale et aussi de la culture qui fait qu'on pense un peu autrement le rapport à l'autre et qu'on n'a pas exactement la même propension à se réfugier dans les bras du Rassemblement national.
Merci à Yann Rivoal, directeur de La Vapeur de Dijon, d'avoir répondu à mes questions pour ce programme « Ça arrive près de chez vous » qui donne la parole à celles et ceux qui font vivre nos territoires.
«
Ça arrive près de chez vous, cette série que vous pouvez découvrir sur les antennes des Radio Campus de France. L'intégralité de la série est à écouter sur radiocampus.fr. Vous la retrouvez également sur orléans.radiocampus.org. Tout de suite, Tunnel, un titre de Inwards dans Écoute ta fac.
Midi 13h.
Écoute ta fac. Thank you.
endless fight, love at ease. Racing fast, resigned to run, are we really blind to the moon and death to the tune? Tasteless tears, a moral might, so set out to see. Can we feel the distant light? Does it
thank you.
After Minneapolis, c'est un titre de Joshua Redman dans Écoute ta fac sur Radio Campus Orléans. Et on va se quitter avec un dernier titre, c'est Up Way Funk, un titre de The Bamboos. Merci de nous avoir suivis sur Radio Campus Orléans. Je le rappelle, vous nous écoutez en FM sur le 88.3, également en radio numérique terrestre et sur notre site internet partout dans le monde. C'est sur orleans.radiocampus.org. La suite de vos programmes, vous retrouverez à 15h évidemment le Moulin à Parole et la suite de vos programmes de la soirée. On est mardi aujourd'hui, donc mardi vous aurez Abaton Rompu suivi de Raidon et du catalogue électronique. Je vous souhaite de passer une excellente après-midi. Profitez, à plus.